old records never die.
Soyez les bienvenus à l'écoute de ce nouveau numéro de Old Records Never Die sur Radio Alliance Plus. Ça y est, c'est la rentrée et j'entends à nouveau la cloche de l'école sonner la fin de la liberté pour les mômes du quartier. Je la trouve un peu forte, surtout quand ma fenêtre est ouverte. Un jour, je vais bien mettre le volume à fond, diriger mes enceintes vers la cour de l'école. On verra comment ils réagiront. Peut-être qu'ils aimeront, d'autant plus que j'ai plein de choses nouvelles à leur faire écouter. Eh oui! Les sorties de l'été ont été nombreuses et de qualité. Alors, une seule émission ne suffira pas à faire le tour de cette actualité, il y en aura donc deux. La première, je l'ai intitulée « Persévérance, continuité, fidélité ». Alors pourquoi ce titre? Vous allez comprendre tout de suite. L'été a débuté avec le nouvel album de Deep Purple. C'est le 24e pour cette formation qui a vu le jour en 1968. Deep Purple a toujours été un groupe de 5 membres. La formation la plus emblématique, celle des In Rock, Machine Head et Made in Japan, était composée de Ritchie Blackmore à la guitare, qui est parti créer le groupe Rainbow avec lequel il n'a pas connu le même succès, de John Lord au clavier, qui a apporté une touche d'originalité à ce groupe. Il est décédé en 2012 et était un petit peu le leader de la formation. De Roger Glover à la basse, il a changé un peu la place de la basse en lui donnant plus d'importance. Et puis, il est parti aussi avec Blackmore dans Rainbow. Et il est revenu dans Deep Purple plus tard. De Ian Gillan au chant, lui aussi il est parti voir ailleurs avant de revenir. C'est un chanteur emblématique du hard rock, capable de monter très fort et très haut dans les aigus. Et enfin, de Ian Paice à la batterie, reconnaissable à ses petites lunettes rondes qui lui donnaient un air hippie. C'est le seul à n'avoir jamais quitté le groupe. Ian Paice, c'est un jeu de batterie très efficace, un de ces batteurs qu'on ne prend jamais en défaut et sur lequel on peut compter. Vous remarquerez, si vous lisez un article sur ce groupe, qu'il est souvent suivi de la mention « marque », suivi d'un chiffre. Ça signifie simplement que c'est la énième formation du groupe, au fur et à mesure des changements de personnel. Aujourd'hui, on en est à Marc 9, dans laquelle on retrouve Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, trois des membres fondateurs, Don Airey au clavier depuis 2002 et Simon McBride à la guitare depuis 2022. C'est désormais lui le petit jeune de la bande. Les quatre autres ont 80 balais aux alentours, alors que lui en a à peine 50, c'est vous dire. Le nouvel album qui vient de sortir se nomme Splat. Et ça donne ça, hein, avec le titre Arrogant Boy qui ouvre l'album. Well, Billy couldn't read or write. He never read a book in his life. He looked like shit. Didn't fit, he only ill went out at night. Well, Billy got invited to parties, he would always dress to annoy. Billy fancied his chances, and they called him an arrogant boy. Billy had a special trick, he knew what made the punters tick. Freaking the elite to a picked-up peak, good old Billy lived by his wits. Billy didn't have a choice, buried underneath the noise. He took a deep breath and found his voice, so they called him an arrogant boy. Oh, Billy. Oh, Billy. Oh, what have you done? Oh, Billy, what have you done?
in the dirt. You didn't really give a squirt. He was standing there, head in the air. Well, Billy, salt of the earth. Billy used to dream all day how to get there in his own sweet way. He took his time and then enjoyed the reputation of America's boy.
La même formation avait publié, il y a 2 ans, et j'étais passé un petit peu à côté, il faut le dire, un album qui s'appelait 1, enfin égal 1. Il faut dire qu'elle a connu des hauts et des bas, cette formation, et surtout des bas ces derniers temps. Mais Deep Purple a persévéré, a toujours tourné, a participé à pas mal de festivals de hard comme le Hellfest. On allait les voir un peu comme une curiosité, en référence aux grandes heures du passé. Splat, ça veut dire éclaboussure. Et je trouve que le titre correspond bien à ce qu'on entend. Deep Purple renoue avec ses anciennes recettes. C'est indéniablement du hard rock, même s'il y a un ou deux morceaux qui ont une consonance celtique ou blues. Côté production, c'est parfaitement fait. Et ça, c'est pas étonnant quand on sait que c'est Bob Ezrin, le producteur génial, qui est aux manettes. Il y a toujours cette originalité, souvent copiée, due à l'orgue. Les solos de guitare sont particulièrement bien foutus. Et le tout offre un subtil mélange entre harmonie et rugosité. Ces types ont de la bouteille, un bagage exceptionnel et ils savent l'utiliser. C'est un album que je qualifierais de revigorant. Il me donne le sentiment d'évoluer entre le déjà entendu et le nouveau. Ça crée un sentiment de confort pas désagréable. Alors oui, effectivement, Splat, ça éclabousse. La différence la plus notable, c'est que notre ami Ian Gillan n'a plus tout à fait la même voix. Réécoutez certains titres de Made in Japan pour vous remémorer ce qu'il était capable de faire. Aujourd'hui, il ne peut tout simplement plus. Il n'est pas devenu à faune, mais il ne pousse plus aussi haut et aussi fort. Les compositions du groupe se sont adaptées à cet état de fait et je trouve ça plutôt intelligent. On en écoute un deuxième titre et ça s'appelle The Lunatic.
Happened to turn him insane. He lost his way. same old words, a different tune. Ah, scary. Not long before the ministry is bursting his balloon.
Splat a même des accents rock progressifs parfois sur certains titres. À l'image de la pochette, elle aurait pu servir de support à un album de Yes, c'est vous dire. Ils sont allés chercher une boîte de design italienne et le résultat est surprenant mais très esthétique. Il y a aussi pas mal de clins d'œil au passé, avec ses têtes sculptées dans le granit comme au temps de Deep Purple in Rock, où les musiciens apparaissaient sur le mont Rushmore. Donc, en résumé, Splat est un excellent album qui mérite plus que le détour. Pas le meilleur du groupe depuis ses débuts, mais un des mieux conçus depuis pas mal d'années, qui fera sans doute partie des meilleurs albums de cette année. Alors, je vous l'avais bien dit, persévérance, persévérance. On écoute un dernier titre de cet album et ça s'appelle Sacred Land. Le deuxième mot que j'ai choisi, c'est longévité. Or, c'est facile pour le plus ancien groupe de rock en exercice. Les Rolling Stones ont plus de 60 années de carrière derrière eux. On ne les présente plus. Ce n'est plus un groupe de rock, c'est le rock lui-même. Il y a 2 ans était sorti Hackney Diamonds, dont j'avais parlé dans cette émission. Je me souviens avoir dit à l'époque que ce disque sonnait comme le dernier, en raison d'un clip qui voyait défiler toute la carrière du groupe et surtout la dernière chanson de l'album, Rolling Stone Blues, qui est une reprise de Muddy Waters. Cette chanson était à l'origine même du nom du groupe. Tout cela me paraissait cohérent, d'autant plus que Charlie Watts avait définitivement rangé ses baguettes quelques mois plus tôt. Et vous reconnaîtrez là mes talents de prophète visionnaire. J'avais tout faux. Ceci dit, avec ces gars-là, il ne faut jamais jurer de rien. Ils sont capables de tout, du pire comme du meilleur, de l'imprévu comme de l'ultra prévisible, de l'innovant comme de la répétition. Prendre un pari sur les Stones, c'est très risqué et on ne m'y reprendra plus. Alors, cet album, qu'est-ce que c'est ? Il se nomme Foreign Tongues. Parlons d'abord de la pochette. Elle est signée Nathaniel Mary Crins, un artiste de Chicago qui pratique le collage dessin. En l'occurrence, il a dessiné, en le caricaturant, les visages de Mick Jagger, de Keith Richards et de Ron Wood. Et il en a fait un collage qui montre un visage déformé, assez laid, dans lequel on reconnaît nos 3 gars. C'est un résultat original, qu'on peut aimer ou détester, mais il mérite qu'on le regarde. Cet album contient 14 titres pour un peu plus d'une heure. Il est produit par Andrew Watt, comme le précédent, et la liste des musiciens additionnels est assez longue. Mais on peut citer Robert Smith, Steve Winwood, Paul McCartney, entre autres. Et enfin, 2 titres sont des reprises, l'une de Chuck Berry et l'autre de Amy Winehouse. On peut commencer par en écouter un premier extrait, un titre nommé Mr. Charm, une attaque à l'acide contre Elon Musk, le fortuné malsain.
Call me
Les Stones ont acquis depuis longtemps le sens du teasing. Cette fois, ils ont choisi de sortir un disque de deux pistes tiré à 1000 exemplaires seulement, sous le nom de The Cockroaches. Ça a mis la puce à l'oreille des amateurs des Stones, car le nom de Cockroaches était celui qu'ils utilisaient dans les années 70 quand ils se produisaient dans de toutes petites salles. Il suffisait d'écouter le disque là, en l'occurrence, pour comprendre aussitôt qu'il s'agissait des Stones, car s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est la voix de Mick Jagger. Elle est immédiatement reconnaissable. Et puis, on peut leur reprocher, mais les Stones font du Rolling Stones, et là aussi, ils sont identifiables, d'autant plus que le titre retenu sonne comme les standards du groupe. Un Stone pur jus, pas innovant pour de rond, mais tellement bien foutu, un morceau à intégrer à leur longue liste de morceaux légendaires. À moins de sortir d'un coma de plus de 60 ans, vous ne pouvez être surpris par ce titre. La science du riff d'introduction, simple et efficace, est toujours présente. Le dialogue entre les deux guitares reste de mise, la partition d'harmonica s'impose tranquillement, le tout dans une ambiance un peu chaotique parfois. Le titre, qui avait servi de teasing, s'intitule « Rough and Twisted » et on peut effectivement dire que la route des Stones a été accidentée et sinueuse.
Mississippi, says a little wrong.
Alors comme toujours, à chaque sortie d'un nouvel album des Stones, il y a des critiques peu élogieuses. On leur reproche tout et n'importe quoi. C'est trop long, à quoi ça sert ce disque? C'est toujours la même chose, il serait temps de raccrocher et autres conneries du même genre. Vous ne m'entendrez pas participer à ce concert nauséabond. Les Stones ont rythmé ma vie. C'est aussi grâce à eux que je suis venu à écouter du rock et du blues. J'ai aimé leur côté subversif inhérent au rock. J'ai aimé leurs excès, leurs débordements, leurs histoires extraordinaires. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Nous sommes des millions à avoir été biberonnés au son de leurs chansons, à rester scotchés en les entendant et à baver bouche ouverte devant leurs prestations scéniques. Ne pas aimer les Stones, c'est ne pas aimer le rock et le blues. Même les grincheux devraient avoir un minimum de respect pour ce groupe qui incarne comme nul autre l'âme du rock. Ma vie sans eux n'aurait été qu'un chapelet d'ennui et de morosité. Alors vous pensez bien que je ne me permettrai pas la moindre critique négative de cet album et de ce groupe. Bon, mon but n'est pas de vous convaincre d'écouter cet album, mais vous auriez tort de passer à côté. Une fois encore, il y a plein d'anecdotes qui circulent à propos de ce disque. L'une d'elles est rapportée par Mick Jagger lui-même. Quand ils enregistraient, ils ont remarqué la présence d'un type qu'ils ont reconnu comme étant Robert Smith des Cure. Mick Jagger est allé vers lui en lui disant « On ne s'est jamais rencontré, mais tu es Robert Smith. Ça te dirait de faire un titre avec nous ?» La vie, selon les Stones, c'est pas plus compliqué que ça. Faire ce qu'on aime quand on a envie de le faire, juste pour le plaisir. Or, pas besoin de vous dire que Robert Smith a sauté sur son étui à guitare. Mais la chanson que je voudrais vous faire écouter maintenant n'est pas celle enregistrée avec Robert Smith. C'est « You Know I'm No Good », une reprise d'Amy Winehouse. Une reprise fidèle à l'original, un hommage à la regrettée Amy Winehouse, une reconnaissance de son talent et la marque d'une absence douloureuse. C'est tout ça à la fois. Mais ça aussi, c'est les Stones. Quoi de plus normal que des mauvais garçons du rock reprennent ce titre « You Know I'm No Good ».
Rolled up sleeves and your scar.
Voilà pour la longévité. Passons maintenant à la fidélité. Il y a quelques années, en 2017, disparaissait Tom Petty, ce guitariste bourré de talent. Il jouait avec un groupe nommé les Heartbreakers, au sein duquel figurait Mike Campbell, guitariste aussi. La carrière de Tom Petty est indissociable de celle des Heartbreakers, et l'inverse est vrai également. Mike Campbell était le copain de toujours, le fidèle parmi les fidèles, au point qu'il a consacré les années suivant le décès de son copain à travailler à la publication de coffrets relatant la carrière de son pote. Bel exemple d'abnégation dans lequel il n'a jamais cherché à se mettre en avant. Mais voilà, le temps a passé et Mike Campbell a repris le chemin des studios et de la route. Il avait créé un groupe appelé The Dirty Knobs dans les années 2000. C'était pour s'occuper quand il ne tournait pas avec les Heartbreakers et pour prendre plaisir à jouer dans les bars avec les copains. C'est tout juste s'il pensait un jour enregistrer quelque chose avec cette formation. Il n'a eu qu'à la réactiver et en 2020, ils ont publié un album perturbé par le Covid et un deuxième dans la foulée. J'avais beaucoup aimé ce deuxième. Et voilà qu'un quatrième opus vient de paraître sous le titre « Mission of Mercy ». La collaboration entre Tom Petty et Mike Campbell tient plus de l'osmose que de la complémentarité. C'est un peu normal après tant d'années passées ensemble en studio ou sur la route. Alors oui, cet album a des accents qui rappellent les précédents. On croirait entendre Tom Petty, aussi bien avec le jeu de guitare que la voix, et les compos de Mike Campbell auraient pu être signés par Tom Petty. Tom Petty était très apprécié aux États-Unis. Il y tournait énormément. Mike Campbell a naturellement pris sa suite. Et il nous a fait du Tom Petty, comme le montre ce titre qu'on écoute maintenant et qui s'appelle « No Regrets ».
Someone they could blame. You always.
Mais ce disque n'est pas qu'une énième recomposition à la Tom Petty. C'est un rock énergique, des compositions percutantes, une énergie brute et authentique selon Mike Campbell. C'est un album bourré d'énergie, avec des morceaux qui s'inscrivent dans la continuité de notre style, tout en explorant de nouvelles pistes d'écriture, explique-t-il. Du Nobs à plein régime, du début à la fin. C'est vrai qu'on est sur quelque chose de plus varié, de plus authentique, sur la personnalité de Mike Campbell. Les Dirty Knobs, les boutons sales, littéralement, ben, il peut y avoir aussi une autre acception quand on sait que Knobs, en argot, se traduit par bite en français. Alors les Dirty Knobs font preuve de dérision, ils ne se prennent pas au sérieux, bien qu'ils jouent un rock varié, bien construit et qui mérite d'être entendu. Tom Petty était un représentant de ce qu'on appelle la Heartland Music, des chansons qui parlent du quotidien des gens. Mike Campbell ajoute le rock sudiste à sa palette et du rock plus classique aussi, d'inspiration anglaise. La ressemblance avec Tom Petty a ses limites, et notamment dans le look. Ils sont plus bruts de décoffrage. La fidélité à Tom Petty est bien réelle, mais je pense qu'ils ont besoin de s'en affranchir un peu en se montrant tels qu'ils sont. Alors on en écoute un autre extrait et ça s'appelle « Vicious Hangover ».
I got a vicious hangover, my head might explode. I was on my knees at midnight, hugging the commode. Jumping round in circles like a crazy kangaroo. Got a vicious hangover, it's all because of you. Well, I oughta know better, I guess you didn't care. I woke up in a ditch by the road somewhere. Feeling like a dog and feeling black and blue. I got a vicious hangover and it's all because of you. I'm feeling kind of sick and feeling kind of dizzy. You said you really love me, I believe it was true. I got a vicious hangover and it's all because of you. Vicious hangover. Yeah, vicious hangover. I got a vicious hangover. I got a vicious hangover.
Et puis, comme il nous reste un peu de temps, je vais vous faire écouter un extrait du nouvel album de Kurt Weill. Kurt Weill, il a fait partie de War on Drugs avant de se lancer dans une carrière solo. C'est un musicien un peu à part, à l'allure nonchalante qui colle bien à sa musique. Je n'ose vous parler de sa voix, un peu nasillarde, un peu traînante, car le morceau que j'ai choisi est un instrumental. Il est à mon sens très représentatif du style Kurt Weill. Une musique faite d'harmonie douce, un peu envoûtante et tellement agréable à écouter. C'est sobre, sans chichi ni fioriture, mais qu'est-ce que ça fait du bien à entendre. Kurtville avait sorti un album en commun avec Courtney Barnett. Et ça me permet de faire la transition avec la prochaine émission, car l'on parlera de Courtney Barnett, qui a aussi publié un nouvel album. En attendant, on écoute Kurtville, Red Doom Dub. Alors voilà, c'était le premier aperçu des nouveautés de l'été et je vous en proposerai la suite dans l'émission suivante. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.